Classique 21. Classic, you rock.
Classique 21, soundtrack avec Laurent Deboeuf.
Psychedelic Furs, d'une fois n'est pas coutume, donc dans Soundtrack ce matin en 1986, ici avec Pretty in Pink, cet extrait de la bande originale du film du même nom, hein, qui fête son 40e anniversaire. Focus sur cet album avec Dominique Raguet. Bonjour Dominique.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde.
Alors c'est un film et puis surtout une bande originale qui est devenue culte et qui est aussi l'illustration d'une tendance dans l'industrie musicale du milieu des années 80.
Ouais, 1986, hein, les salles obscures deviennent quelque part aussi des jukebox géants. À cette époque, le cinéma ne se contente plus de raconter des histoires, il fabrique aussi des tubes. Hein. D'un point de vue économique, aux États-Unis à ce moment-là, dans les années 80, l'administration du président Reagan permet une nouvelle phase d'intégration, ce qu'on appelle verticale des majors, en annulant le décret antitrust Paramount de 1948. Et donc, pour les grands studios hollywoodiens, il devient désormais possible pour ces studios d'acquérir des canaux de diffusion un petit peu différents, cinéma, chaînes de télévision, et ils se concentrent alors en leur sein sur toutes les phases d'exploitation des biens audiovisuels, y compris dans le secteur de l'industrie musicale. Ça, c'était avant la révolution numérique, et c'était vraiment l'âge d'or de cette fusion et de ces grandes majors. Et puis, nous sommes au milieu des années 80, hein. MTV dicte les tendances, les clips deviennent des objets culturels majeurs, et les majors du disque flairent là, quand même, hein, une opportunité immense. Le cinéma, finalement, devient une vitrine musicale. Les studios hollywoodiens commencent à être étroitement liés, voire rachetés par des groupes intégrant les labels. Résultat, les bandes originales ne sont plus de simples, on va dire, des compilations, hein, mais de véritables objets artistiques, souvent remplis d'inédits. Mmh. Une stratégie gagnante. Un film promeut un disque, et puis un disque promeut un film. Rien qu'en cette année 1986, allez, petit retour en arrière, Back to the Future, comme dirait l'autre. Oui. On a Absolute Beginners avec Bowie, Labyrinthe avec le même Bowie, oui. Highlander avec la bande-son de Queen, La Folle Journée de Ferris Bueller avec le groupe électro-suisse Yellow, Top Gun, Tenue Soirée pour le côté francophone avec la musique de Serge Gainsbourg, 9 semaines et demie qui permet à Joe Cocker de se hisser en tête des charts avec sa version de You Can Leave Your Heart On. Et puis à chaque fois, il y a une proposition d'avoir sur ce disque, sur cette BO, d'avoir vraiment des titres inédits. Seule possibilité de l'acquérir, c'est de devoir l'acheter et de l'écouter chez soi.
Ouais, et en un paragraphe, là, vous venez de ratisser toute mon adolescence.
Oui, en quelque sorte. Hein. Justement, c'était ça un peu, c'était toucher ce public et surtout ces consommateurs de musique qui devaient aller au cinéma et puis par la suite sortaient du cinéma et quelque part aller acheter leurs disques. Et c'est vrai que Pretty in Pink, écrit par John Hughes, réalisateur spécialisé dans ces teen movies, incarne parfaitement cette alchimie. Hein. Dès les premières notes, une voix s'impose, c'est celle de Psychedelic First avec ce Pretty in Pink, un morceau déjà existant, revisité spécialement pour le film et qui devient là, à ce moment-là, instantanément emblématique. C'est plus qu'un titre, c'est une esthétique, une époque, une mélancolie adolescente.
Ouais,
le sujet de cette chanson, d'abord publiée en 81 et réenregistrée donc avec un son un peu plus new wave pour ce film, ce n'est pas l'histoire d'une adolescente qui est juste jeune et jolie, on va dire ça comme ça. Ce titre met en scène une ado qui couche avec beaucoup de garçons et qui pense qu'en faisant cela, ça la rend populaire dans son lycée. Or, c'est le contraire. Les garçons derrière son dos ont plutôt tendance à se moquer d'elle et lui font ce qu'on appelle une mauvaise réputation.
Mmh. C'est vrai que dans les écoles américaines, ça, le fait de se retrouver populaire, c'est quelque chose qui compte énormément. Je pense que c'est la même chose chez nous. Enfin, moi, j'en ai pas le souvenir.
Il y avait quand même les fringues.
Bon, allez, un thème qui est aussi évidemment très en adéquation avec cette période de l'adolescence durant laquelle il est difficile de se sentir bien dans sa peau parfois.
Oui, et le réalisateur John Hughes, ce mal-être entre l'enfance et l'âge adulte, il va le mettre dans tous ses films. Hein. Il le fait souvent aussi avec humour, ce qui il évite un peu le ton moralisateur et surtout pour capter l'attention de ces jeunes, il a toujours soigné ses bandes originales comme si c'était au fond des personnages à part entière. Hein. La force de cette bande originale ici, c'est vraiment la cohérence. Hein. Il va chercher ce qui, à cette époque, est le mieux dans ces années 80. Le côté, pour reprendre une expression de l'époque, branché. Mm-hmm. Hein, pas vraiment avoir recours aux stars des charts made in USA. Non, il faut des inédits sur cette BO. Et je vous le disais, parmi ceux-ci, il y a par exemple les Australiens de In Excess. Bon, à ce moment-là, ils sont déjà un petit peu connus avec Original Sin, mais qui n'avait pas vraiment énormément cartonné aux États-Unis, il n'était pas rentré dans le top 50. Et on est avant l'album du Triomphe, l'album Kick In Excess, qui accepte d'enregistrer un titre inédit pour cette BO de Pretty in Pink. Alors ce morceau, c'est Do What You Do, morceau qui, dans son traitement, préfigure quand même l'album Kick. C'est inédit. Je l'ai retrouvé pour vous, pour Classic 21.
Ah, mais ça, c'est un beau cadeau alors. On va le déballer tout de suite.
We'll
Do What You Do, inédit donc de In Excess, et c'est donc dans la bande originale de ce film, hein, Pretty in Pink, 40e anniversaire. C'est un album qui aujourd'hui peut s'écouter comme un échantillon, hein, de cette scène pop pop rock made in England aussi dans le milieu des années 80, alors que le film pour ado, lui, est plutôt américain. C'est assez étonnant.
Oui, surprenant, et en effet d'autant plus que c'est un gros studio qui fut derrière ce projet, qui est en fait une adaptation d'un roman de Harriet Gilmour. Rien à voir avec le guitariste, auteure américaine très très connue là-bas de l'autre côté de l'Atlantique pour ses ouvrages mettant justement en scène des adolescents, mais pas avec le côté un petit peu fleur bleue. C'est beaucoup plus intéressant que ça. Mais après, c'est vrai, le succès de Breakfast Club, eh bien le réalisateur a eu le champ libre, et comme il s'intéressait beaucoup à la déferlante, on va dire New Wave, ben il a eu envie de reprendre un petit peu ce phénomène à son compte. Et c'est vrai que cette BO capture cet esprit New Wave, cette pop synthétique et introspective qui domine alors. Et de fait, on y retrouve Orchestral Man of the Dark avec If You Leave, morceau écrit spécialement pour le film en 24 heures et qui deviendra un énorme succès. Anecdote, eh bien, à la fin originale du film avait changé lors des projections test, et du coup, OMD avait dû recomposer en urgence le titre, et c'est la version finale qui est restée dans l'histoire. Et puis, autre moment suspendu de cette BO de Pretty in Pink, nous avons Suzanne Vega avec Left of Center, une chanson fragile, je dirais, produite par Joe Jackson. Joe Jackson qui est d'ailleurs derrière le clavier de ce morceau, qui incarne au fond à merveille le personnage principal de Pretty in Pink, Andy, avec ce côté sensible où elle est un petit peu différente de toutes les autres adolescentes. On peut replonger peut-être dans ce morceau de Suzanne Vega.
Bien volontiers. Voilà, donc quelques bouffées, quelques mesures de Left of Center de Suzanne Vega, Joe Jackson aussi, hein, Pretty in Pink, donc cet album qui offre un casting absolument incroyable. C'est un casting plus impressionnant finalement que celui du film.
Bah oui, Molly Ringwald, révélée par Breakfast Club, va assez vite arrêter le cinéma après Pretty in Pink. Peut-être à part James Spader qui a continué, les autres acteurs et actrices n'ont pas fait briller vraiment leur étoile au firmament des stars. À l'inverse, des groupes ou artistes sur l'album, d'un album d'où se dégage à l'écoute, je dirais un vrai climat, hein, parce qu'on y retrouve quand même New Order, The Smiths, Echo and the Bunnymen, et même si tous ne figurent pas sur l'album officiel américain, ils gravitent quand même autour de cet univers, ce même univers sonore. C'est toute une scène alternative britannique qui irrigue le film. Et c'est là que réside le secret de ces bandes originales de ces années 80. Elles sont pas accessoires, hein, elles sont vraiment centrales. Elles parlent directement à cette génération, je dirais Walkman. Ouais. Pretty in Pink, c'est presque un modèle, hein, une bande originale qui vit indépendamment du film, tout en restant vraiment indissociable au film.
Absolument.
Et puis, comment ne pas faire aussi le lien avec un autre film du même réalisateur, hein, John Hughes, sorti un an plus tôt, The Breakfast Club. Le titre d'ailleurs du film Pretty in Pink a été choisi par le réalisateur parce que l'actrice Molly Ringwald, qu'on a découvert donc dans le film Breakfast Club, eh bien, elle écoutait en boucle la première version produite par Steve Lillywhite de Psychedelic First de Pretty in Pink. Et puis l'autre lien, c'est qu'en fait l'album précédent des Psychedelic First, l'album Mirror Moves, avait été produit par Keith Posey. Il est le co-auteur du morceau Flashdance, mais surtout de Don't You Forget About Me, qui au départ devait être enregistré par Brian Ferry, qui avait refusé. Et puis ils avaient demandé à Simple Minds, qui au départ aussi avait refusé, puis ils avaient insisté. Et donc, effectivement, c'est devenu ce tube, cet hymne générationnel devenu indissociable, hein, de cette scène finale avec le poing levé vers le ciel, hein, la génération 80s qui avait leur film pour ados avec une vraie bande-son originale et qui est devenue des grands classiques.
Effectivement, et donc ça a été du pain béni. Donc pour Simple Minds, et on referme bien entendu cette séquence avec Don't You Forget About Me. Un grand merci Dominique, bon dimanche.
Et à dimanche prochain.
Évidemment, c'est très difficile de ne pas chanter en même temps. Je suis sûr que vous avez fait de même. Don't you forget about me pour Simple Minds qui vient refermer donc cette spéciale sur les 40 ans de la bande originale du film Pretty in Pink.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.